Vous écoutez, on lit pour vous.
Les optimistes vivent-ils vraiment plus longtemps? Un texte de Fuchsia Sirois paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Êtes-vous du genre à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Faites-vous partie de ceux qui prennent toujours la vie du bon côté? Si oui, outre ces avantages non négligeables au quotidien, vous avez peut-être également entendu dire que cet optimisme pourrait, en plus, être bon pour votre santé. Un certain nombre d'études ont en effet suggéré que les optimistes jouissaient de niveaux de bien-être plus élevés, d'un meilleur sommeil, d'un stress moindre, d'une meilleure santé cardiovasculaire et même d'un meilleur système immunitaire. Et maintenant, une publication tout juste parue a montré qu'être optimiste favoriserait également une vie plus longue et en meilleure santé. Pour mener cette nouvelle étude, les chercheurs ont suivi près de 160 000 femmes âgées de 50 à 79 ans sur une période de 26 ans afin d'étudier leur longévité. Au lancement du protocole, les participantes ont rempli une mesure d'auto-évaluation de l'optimisme et celles qui ont obtenu les meilleurs résultats ont été classées comme optimistes. Les scores les plus bas ont été associés au pessimisme. Puis, en 2019, les chercheurs ont recontacté les participantes toujours en vie. Ils ont également examiné la longévité de celles qui étaient décédées. Ce qu'ils ont découvert, c'est que celles qui avaient les niveaux d'optimisme les plus élevés étaient plus susceptibles de vivre plus longtemps. Plus important encore, les optimistes étaient également plus susceptibles que les pessimistes de vivre jusqu'à 90 ans. Les chercheurs parlent de longévité exceptionnelle, sachant que l'espérance de vie moyenne des femmes est d'environ 83 ans dans les pays développés. Ce qui rend ces résultats particulièrement impressionnants, c'est qu'ils sont restés les mêmes après avoir pris en compte d'autres facteurs connus pour favoriser une vie plus longue, notamment le niveau d'éducation, le statut économique, l'origine ethnique et le fait de souffrir ou non de dépression ou d'autres problèmes de santé chronique. Mais, comme cette étude n'a porté que sur des femmes, il n'était pas certain qu'il en soit de même pour les hommes. Toutefois, une autre étude, portant cette fois sur ces messieurs, en plus de ces dames, a aussi conclu que les personnes les plus optimistes avaient une durée de vie de 11 à 15% supérieure aux autres. Comment expliquer cet effet fontaine de jouvence? Mais pourquoi les optimistes vivraient-ils plus longtemps? N'est-ce pas trop beau pour être vrai? Des explications simples mais efficaces se dégagent. À première vue, il semblerait que cela soit notamment lié à leur mode de vie plus sain. Par exemple, des recherches menées dans le cadre de plusieurs études ont montré que l'optimisme est lié à une alimentation saine, à la pratique d'une activité physique et au fait d'être moins enclin à fumer. Autant de comportements bien connus pour favoriser une meilleure santé cardiaque et réduire le risque de maladies cardiovasculaires qui sont une des causes principales de décès dans le monde. Adopter un mode de vie sain est également important pour réduire le risque d'autres maladies potentiellement mortelles comme le diabète et le cancer. Mais un mode de vie sain ne suffit pas pour comprendre cette longévité accrue des optimistes. Car la dernière étude a également révélé que le mode de vie n'expliquait que 24% du lien entre optimisme et longévité. Cela suggère que d'autres facteurs entrent en jeu. La façon de gérer le stress des optimistes pourrait ainsi jouer un rôle non négligeable. Lorsqu'ils sont confrontés à une situation stressante, les optimistes ont tendance à l'affronter de front. Ils utilisent des stratégies d'adaptation qui les aident à résoudre la source du stress ou à envisager la situation d'une manière moins stressante. Par exemple, ils résoudront des problèmes et planifieront des moyens de faire face aux facteurs de stress feront appel à d'autres personnes pour obtenir du soutien ou essaieront de trouver un bon côté à la situation stressante. Toutes ces approches sont bien connues pour réduire les sentiments de stress, ainsi que les réactions biologiques qui se produisent lorsque nous nous sentons stressés, telles que l'élévation du taux de cortisol, parfois appelé hormone du stress, l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle et l'altération du fonctionnement du système immunitaire. Peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé au fil du temps et augmenter le risque de développer des affections potentiellement mortelles, comme les maladies cardiovasculaires. En bref, la façon dont les optimistes gèrent le stress peut contribuer à les protéger quelque peu contre ces effets néfastes. Voir le bon côté des choses. Les chercheurs considèrent généralement l'optimisme comme un trait de personnalité relativement stable, déterminé à la fois par des facteurs génétiques et des influences liées à la petite enfance, comme le fait d'avoir une relation sûre et chaleureuse avec vos parents ou les personnes qui s'occupent de vous. Mais si vous n'êtes pas naturellement enclin à voir le verre à moitié plein, il existe des moyens d'augmenter votre capacité à être optimiste. Des travaux montrent que l'optimisme peut évoluer avec le temps et mieux encore, qu'il peut être cultivé en pratiquant des exercices simples. Par exemple, visualiser puis écrire à propos de votre meilleur moi possible. Une version future de vous-même qui a atteint vos objectifs est une technique qui, selon les études, peut augmenter considérablement l'optimisme, au moins temporairement. Mais pour obtenir les meilleurs résultats, les objectifs doivent être à la fois positifs et raisonnables et pas seulement des vœux pieux. De même, le simple fait de penser à des événements futurs positifs peut également être efficace pour stimuler l'optimisme. Il est également essentiel de tempérer toute attente de réussite par une vision précise de ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. L'optimisme est renforcé lorsque nous faisons l'expérience des résultats positifs que nous attendons. Et il peut diminuer lorsque ces résultats ne sont pas ceux que nous souhaitons. Bien que d'autres recherches soient nécessaires, il est possible que le fait de s'imaginer régulièrement avoir les meilleurs résultats possibles et de prendre des mesures réalistes pour y parvenir puisse contribuer à développer un état d'esprit optimiste. Bien sûr, cela peut être plus facile à dire qu'à faire pour certains. Si vous n'êtes pas naturellement optimiste, la meilleure façon d'améliorer votre longévité est de mener un style de vie sain en restant actif physiquement, en ayant une alimentation saine, en gérant le stress et en ayant de bonnes nuits de sommeil. Si l'on ajoute à cela le fait de cultiver un état d'esprit plus optimiste réaliste, vous pouvez augmenter vos chances de vivre longtemps. Source : La Conversation Canada. C'était « Les optimistes vivent-ils vraiment plus longtemps ?» un texte de Fuchsia Sirois paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.
Traiter la rubanite chronique, un texte de Virginie Dosti-Toupin, paru le 15 janvier 2024 dans La Presse. L'auteur est mère de 4 enfants et conseillère municipale à Saint-Lambert. Francis Vaille invitait récemment les politiciens à délaisser les rubans en faveur de l'avenue moins excitante qui s'impose, la réfection. Certes, c'est d'abord aux décideurs que la responsabilité incombe. Toutefois, n'oublions pas que les élus sont tributaires du peuple, qu'ils répondent à ses aspirations, in fine, si les politiciens ont le regard rivé sur les projets qui brillent comme des sous neufs, c'est en grande partie parce que les promesses inédites séduisent à coup sûr l'électorat. Ainsi, il serait peut-être temps de procéder à un examen de conscience collectif et de reconnaître que notre fascination pour l'approche à court terme nous mène vers un abîme financier. Pour briser ce cercle vicieux, nous devrions souscrire à un modèle qui nous protégera de nous-mêmes et de nos impulsions délétères. L'exemple des copropriétés. À cet égard, une incursion du côté des copropriétés s'avère fort inspirante. Avant 2020, les problèmes de gestion d'actifs gangrenaient ce milieu. Dans plusieurs cas, les enjeux, connus depuis longtemps, étaient négligés dans une fuite en avant. Dans d'autres cas, la confiance aveugle en l'avenir faisait en sorte qu'on ne provisionnait pas suffisamment de fonds. Les mauvaises surprises étaient légion. Bref, un fin mélange d'hommerie et de nonchalance était à l'œuvre. Avec la loi 16, Québec a remédié au problème en assujettissant les copropriétés à une approche résolument plus scrupuleuse. Beaucoup appréhendaient le changement, mais aujourd'hui, personne ne retournerait en arrière. Les copropriétaires ont désormais saisi l'importance d'anticiper les dépenses, de planifier les investissements et d'éviter les pièges de la procrastination. Il apparaît clair que tous les ordres de gouvernement aux prises avec des problèmes similaires gagneraient à suivre cet exemple. La création de fonds de prévoyance et de plans minutieux de gestion d'actifs présenterait le grand avantage de constituer une solution à la fois pérenne et indépendante des lubies d'élus qui ne font que passer. L'angle mort municipal. Cela dit, pour bien planifier, encore faut-il connaître l'heure juste. Or, comme le rapportent les chercheurs du Cyrano, le Québec ne possède pas un portrait clair de la situation. Chez nous, contrairement à l'Ontario, les déficits de maintien d'actifs municipaux ne sont pas rapportés systématiquement. Pourtant, nos municipalités sont aux prises avec d'immenses besoins en la matière. Les nids de poules et les ruptures visibles de canalisations d'eau ne représentent que la pointe de l'iceberg. Même dans une ville d'à peine 23 000 âmes comme la mienne, le déficit de maintien d'actifs est évalué, très sommairement, entre 200 et 300 millions. Évidemment, Saint-Lambert est une ville assez vieille. Elle possède donc une courte longueur d'avance sur d'autres municipalités, mais toutes les villes pressentent l'épée de Damoclès qui les guette. Un portrait plus précis de la situation municipale s'avère incontournable. Après tout, si les municipalités sont des créatures de Québec, il en va de même de leurs déficits. L'investissement des tiers. Les chercheurs du Cyrano ont mis en exergue une autre différence entre l'Ontario et le Québec qui pique l'intérêt. Dans la province voisine, les investissements de tiers sont comptabilisés et les autorités locales se voient parfois contraintes de collecter 10 % du financement requis pour certains projets d'infrastructure. Plutôt que de tout faire porter sur les épaules surchargées du gouvernement, nous pourrions envisager de soulager la pression sur les finances publiques en augmentant les partenariats, les campagnes de financement communautaire et les contributions locales. Si les détails du plan de sauvetage de nos infrastructures restent à établir, une chose est néanmoins limpide, nous ne pouvons plus remettre à plus tard le grand chantier de la réfection. Troquons l'insouciance de la cigale pour la prévoyance de la fourmi. C'était « Traiter la rubanite chronique », un texte de Virginie Dosti-Toupin, paru le 15 janvier 2024, dans la presse.
Il est plus jeune que moi. Et alors? Un texte de Caroline Fortin, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Les différences d'âge continuent de faire jaser. Surtout et toujours quand c'est la femme qui est plus vieille dans un couple hétérosexuel. Un homme plus vieux, avec une femme dans la fleur de l'âge, pas de quoi écrire à sa mère, mais une quinca ayant à son bras un trentenaire. Voilà que fusent les commentaires. Un double standard que la psychothérapeute et sexologue Sylviane Larose résume ainsi. Une femme qui s'affiche en relation avec un homme plus jeune, ça fait ressortir deux choses. Qu'elle a du désir et de la sexualité. Pourquoi ça choque? Eh bien, parce que les femmes sont encore cantonnées dans un certain rôle. Mylène Allary, professeure associée à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, qui a consacré des recherches au couple hétérosexuel où la femme est l'aînée, rappelle ces différences dans les schémas dominants. Les hommes sont vus comme en droit d'exprimer leurs désirs sexuels et de chercher à les satisfaire, alors que les femmes sont encouragées à se percevoir, avant tout, comme objet de désir. Les hommes sont incités à faire les premiers pas, les femmes à attendre les propositions. On accorde en outre aux hommes une plus grande permissivité sexuelle quant au nombre de partenaires qu'ils peuvent avoir. Et culturellement, le vieillissement est présenté comme ayant un effet dépréciateur plus marqué sur la valeur des femmes que sur celle des hommes. Bref, l'âgisme, combiné au sexisme, crée un environnement particulièrement contraignant pour les femmes d'âge mûr désirant rencontrer des hommes plus jeunes. Insérez ici un emoji roulant des yeux. L'âge, c'est relatif. Pour Sylviane Larose, une différence de 5 ou 6 ans, ce n'est rien. C'est lorsque l'écart se mesure en douzaines d'années, voire en générations, qu'il peut déranger. Car on a alors des référents à part sur le plan culturel, de style de vie, de travail, mais tout dépend surtout de la période de vie. Dans mes recherches, les femmes dans la trentaine étaient plus susceptibles de considérer comme important un écart de quelques années, comparativement aux femmes dans la cinquantaine. Mais celles qui étaient habituées à fréquenter des hommes largement plus vieux pouvaient trouver heurtant d'avoir 5 ou 6 ans de plus que leur conjoint. Bref, l'écart, c'est une question de perspective, dit Mylène Allary. Au lit, le paradis? Il est tentant de céder à l'équation « homme plus jeune égale 7e ciel ». Mais il faut se méfier des généralisations, rappelle la scientifique. D'un côté, selon ses recherches, une majorité de femmes estiment la dynamique sexuelle avec des hommes plus jeunes très satisfaisante et souvent mieux que ce qu'elles ont vécu avec des hommes de leur âge ou plus âgés, car elles se sentent plus libres d'exprimer leurs désirs et leur appétit sexuel et de s'affirmer lors des ébats. De l'autre, plusieurs femmes ont tenu à souligner que tous les hommes plus jeunes ne sont pas nécessairement des amants talentueux, généreux et à l'écoute. Sur un plan plus prosaïque, les genoux ont en général moins de problèmes érectiles. Il faut toutefois arrêter de penser que ceux-ci deviennent automatiques après 40 ou 50 ans, rectifie Sylviane Larose. Plein d'hommes sont sexuellement fonctionnels à 60, 70 ou 80 ans. Et il y a l'idée voulant que se donner à une femme d'expérience, c'est le plaisir assuré. Cette perception fait en sorte que beaucoup se sentent grandement désirés et encouragés à manifester ouvertement leurs désirs et leur savoir-faire, dit Mylène Allary, ajoutant que ces femmes trouvent que les jeunes ont davantage tendance à prioriser leur plaisir sexuel. Des relations qui durent. Même si ces couples sont parfois vus comme éphémères, la différence d'âge n'empêche pas une relation de durer. Tranche Sylviane Larose. Tout dépend de ce que les gens cherchent. Un véritable engagement ou une relation qui vient répondre à des besoins précis, comme les besoins sexuels. Ce qui maintient une relation, ce sont les valeurs communes qui permettent d'évoluer ensemble. Quelques écueils planent cependant, comme le jeune amant désire des enfants. Il faut entrer dans une relation de manière éclairée, dit la psychothérapeute et sexologue. La ménopause peut également entraîner une baisse de désir, mais on peut s'adapter et apprendre à fonctionner différemment au lit. Et il y a le risque de se retrouver déphasé, surtout si l'écart est important. La femme arrive à la retraite, son conjoint, non. Alors, elle doit accepter de réaliser des projets seuls et en planifier d'autres à deux. Ça peut devenir suffisamment conflictuel pour mener au sentiment d'être enlisée. Et l'attirance, elle, peut-elle résister au temps? On vieillit au même rythme, même si on n'a pas le même âge, rétorque Sylviane Larose. La plupart des couples vont s'adapter dans les codes d'attraction en vieillissant. Et comme dans n'importe quelle relation, si un des deux partenaires change physiquement de façon drastique parce qu'il ne prend pas soin de lui, l'attirance peut diminuer. L'art de s'assumer. Peu importe ce qu'en disent Pierrette, Jean ou Jacques, il faut apprendre à faire fi de l'opinion d'autrui. Les gens vont toujours juger, rappelle la psychothérapeute et sexologue. Si je suis à l'aise avec mon couple, c'est tout ce qui compte. Après, on peut nommer les choses. Ma relation amoureuse est sérieuse, on partage les mêmes valeurs, on a des projets. J'aime ma vie amoureuse, je suis bien avec lui, conseille Sylviane Larose. Et citer ce constat de Mylène Allary pourrait clouer des becs. Le jeune homme qui cherche sa mère, selon les participantes à mes recherches, serait un mythe. D'après elle, les hommes qui fréquentent des femmes plus âgées apprécient plutôt la confiance en soi, les compétences sexuelles, la maturité et l'indépendance, des qualités souvent pensées comme se développant avec l'âge. Et v'là! C'était « Il est plus jeune que moi, et alors ?» un texte de Caroline Fortin, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.
Apprendre le français tout seul, ça se fait. Un texte de Patrick McKenna, paru le 8 janvier 2024 dans la presse. À l'âge de 30 ans, avec une base très mince en français, sans programme de francisation, peut-on apprendre la langue commune assez bien pour s'intégrer pleinement à la vie montréalaise? Moi, je l'ai fait, même si, à l'école, j'étais nulle en français et même si, quand j'ai quitté Belfast, en Irlande du Nord, j'ignorais même l'existence du Québec. Paradoxalement, mon parcours vers le français a débuté dans une petite ville très anglophone, au fond de l'Ontario rural. Par pur hasard, les deux seuls Québécois francophones en ville étaient des collègues et nous sommes devenus amis. Invité à souper chez eux, je fus surpris d'entendre parler le français autour de la table. Intrigué par cette réalité parallèle nommée Québec, j'ai décidé d'y tenter ma chance et, à l'été 1978, je suis parti pour de bon. Avec l'encre de la charte, la loi 101, encore humide, je savais que je devais apprendre le français, et c'est exactement cela que j'ai fait, sur le tas, sans prof, ni cours, ni manuel de grammaire, ni dictionnaire. Je louais un logement près de la manufacture de tabac où je travaillais, au coin des rues Ontario-Est et d'Iberville. Je consommais télévision et films, chansons et romans en français. J'allais même à la messe du dimanche pour forcer mon cerveau à mapper les prières en français dans leur version anglaise que je connaissais par cœur. Une méthode autodidacte. Puis, après 2 ans, je me suis fait une blonde et mes connaissances en français ont fait un bond en avant. Outre ma blonde, certains voisins m'ont aidé. Une voisine ornithologue m'a appris que le grand oiseau qui volait en cercle au-dessus n'était pas un aigle, mais un urubu à tête rouge. Un voisin m'a expliqué le terme « syncope », ayant lui-même syncopé. Un autre voisin diplômé en Sciences Po a suggéré que « autarcie » était un terme plus juste que « autosuffisance ». Finalement, en trouvant dans un roman les mots, les brins de grammaire et les expressions qui m'étaient inconnues, je cherchais leur sens dans un dico ou dans une grammaire. J'évalue mes progrès par des moyens très pratico-pratiques. À la Cour des petites créances, la juge a compris parfaitement mon témoignage. Les personnes qui reçoivent mes courriels disent qu'ils sont plus concis et plus lisibles qu'avant. Un mot gentil, mais ferme à l'intention d'un voisin, et je n'entendais plus le sifflement aigu de sa douche après 22 heures. Un terme qui m'est inconnu capte tout de suite mon attention dans le babil de la télé. Bagou. Catherine Dorion. Béni Oui Oui, Claire Sanson. Satané Virus, Patrice Roy. Mes expressions. À chaque jour suffit sa météo. Je suis un Montréalable. Font sourire les voisins. Finalement, il n'y a pas si longtemps, j'ai rêvé que j'étais dans un café. Au comptoir, j'ai demandé au barista « Tu n'aurais pas par hasard le journal d'aujourd'hui ?» Il m'a répondu « Si » et m'a passé le journal. Bref, apprendre tout seul est possible et pour certains, comme moi, c'est probablement préférable. Il y a 45 ans, dans le tourment de l'intégration, dont les vicissitudes ne finissaient plus, des cours magistraux avec curriculum, prof et évaluation auraient pu me faire tout lâcher. Je suis content d'avoir fait cavalier seul. Après tant d'années, je continue d'apprendre, avec plaisir et à tous les jours, ma bien-aimée langue d'adoption. C'était « Apprendre le français tout seul, ça se fait », un texte de Patrick McKenna, paru le 8 janvier 2024 dans la presse.